Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
On va lire dans le psaume 119, verset 81 jusqu'au verset 88. Mon âme languit après ton salut. J'espère en ta promesse. Mes yeux languissent après ta promesse. Je dis, quand me consoleras-tu? Car je suis comme une outre dans la fumée. Je n'oublie point tes statuts. Quel est le nombre des jours de ton serviteur? Quand feras-tu justice de ceux qui me persécutent? Des orgueilleux creusent des fosses devant moi. Ils n'agissent point selon ta loi. Tous tes commandements ne sont que fidélité. Ils me persécutent sans cause. Secours-moi. Ils ont failli me terrasser et m'auraient exterminé, mais moi, je n'abandonne point tes ordonnances. Rends-moi la vie selon ta bonté, afin que j'observe les préceptes de ta bouche. Amen. Amen. Il dit, mon âme languit après ton salut. Aujourd'hui, bien sûr, nous n'avons pas besoin de languir après le salut, parce que c'est quelque chose que nous avons reçu lorsque nous avons reçu le Seigneur Jésus. Amen. Nous avons été sauvés, nous sommes sauvés et nous serons sauvés pour l'éternité. Il n'y a aucun problème par rapport à cela. Et comment est-ce qu'on peut envisager le salut? Il y a d'autres choses parfois qui arrivent dans la vie et dans laquelle nous avons besoin de voir une intervention salutaire de la part de Dieu, de voir sa main dans nos situations, dans nos problèmes, dans parfois certains désordres, parfois certains pièges, et qui sont peut-être pas forcément mortels, mais qui posent vraiment de grands problèmes. Jésus est l'auteur de notre salut. Il est notre libérateur. Il est notre délivrance. Donc, quelles que soient les choses auxquelles tu as à faire face, vraiment languir et désirer ardemment l'intervention de Dieu, la manifestation du salut de Dieu dans cette situation, c'est la première des choses à avoir. Souvent, on essaye d'arranger les choses. On essaye de régler les problèmes. Et d'une certaine manière, nous devons le faire. Mais il y a des moments où les choses nous échappent, où ça nous est impossible. Ou quand quelque chose semble un petit peu mieux aller, il y a autre chose qui se présente. Vous savez, c'est comme il y a certains endroits dans le monde, notamment en Hollande, c'est très très plat, vraiment le terrain est vraiment très plat. Alors on a voulu gagner du terrain sur la mer et on a construit ce qu'on appelle des digues, des barrages pour garder l'eau éloignée. Et imaginez qu'il y ait un petit trou dans cette digue. Vous savez, quand il y a un trou dans un barrage, même si c'est un trou minuscule, sachez que la pression de l'eau va s'exercer tellement fortement sur ce trou que ça va finir par craquer. Alors au début, le trou va grandir, tout à coup, une partie du barrage va lâcher et après, ça va être tout le barrage qui va être emporté. Et on a l'impression que parfois, il y a des personnes, ils sont devant cela, ils sont comme ça. Il y a le barrage qui retient les problèmes, mais là, il y a un petit trou qui arrive. Alors, il met son doigt dedans pour empêcher l'eau de continuer de passer. Et après, il voit que de l'autre côté, il y en a un autre. Alors, il est obligé de mettre sa main de l'autre côté. Et un troisième, alors il essaye de coincer ça avec sa tête. Et un quatrième, il met son pied. Et après, il ne peut plus rien faire. Et ce n'est pas comme ça que nous devons fonctionner. Amen. Devant les choses qui arrivent, parce qu'elles arrivent, et je vous assure qu'il y en a d'autres qui arriveront, et peut-être même des pires. Amen. Jésus a dit dans Jean chapitre 16, vous aurez, le dernier verset, c'est verset 33, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Donc les tribulations dans le monde, ça fait partie de la vie de tous les hommes. Mais là où on peut être reconnaissant au Seigneur, c'est que nous ne sommes pas comme tous les hommes. Les hommes doivent essayer de gérer, de régler leurs problèmes. Parfois, ils y arrivent, parfois, ils n'y arrivent pas. Et quand ils en ont réglé un, ils ont mis leur doigt là. Et après, il y a le deuxième qui arrive, ils mettent leur deuxième doigt là. Et après, ils s'effondrent parce qu'ils n'en peuvent plus. Mais nous ne sommes pas du monde pour vivre comme le monde vit. Nous avons un Dieu. Espère, confie-toi. Quand on dit espère, c'est pas dans le sens peut-être que ça va bien arriver, peut-être que ça ne va pas arriver, mais sache que Dieu est derrière sa parole afin de l'exécuter. Il est un Dieu qui fait des promesses et qui ne ment pas. Il te dit, je suis avec toi tous les jours, même jusqu'à la fin du monde. Ne crains pas, car j'ai trouvé bon de te donner le royaume. Ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, écoute-moi. Au lieu d'écouter les circonstances, au lieu d'écouter les hommes, une fois que tu as vu cette circonstance, que tu as entendu ce qu'il y avait à entendre, ok, j'ai pris connaissance de la chose. Maintenant, je vais voir celui qui est capable de régler cette chose. Et en plus, il va me dire, moi, ce que je dois faire dans tout ça. Parce que nous avons toujours une part à faire. Qu'est-ce que je dois faire? D'abord, la première chose, c'est qu'est-ce que je dois en penser? Vous savez, on a chacun notre sensibilité, on a chacun nos émotions, on a chacun nos façons de penser, de voir les choses, de raisonner. Et ce n'est pas de cette manière-là que l'on doit appréhender les situations de notre vie. J'ai vu, j'ai entendu, d'accord. Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que moi, personnellement, je dois penser de ces choses? Comment est-ce que je dois les voir? Comment est-ce que je dois les comprendre? Parce que je veux les voir comme toi tu les vois, les comprendre à la lumière de ta compréhension, afin de pouvoir prendre une position par rapport à ces choses, une position qui est juste, une position qui est correcte et une position qui est puissante. Vous comprenez? Et c'est cela, espérer dans le salut de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui peut hypothétiquement arriver, oui, peut-être, non, peut-être pas, mais je crois en toi, Seigneur, et tu vas me montrer d'abord comment tu vois les choses, ce que moi je dois en penser, quelle est ma part, et aussi ce que tu vas faire, de quelle manière dois-je prier. C'est comme ça que nous espérons dans le salut de Dieu, et ce n'est pas une espérance qui est trompeuse, c'est une espérance remplie d'assurance, parce que Dieu n'est ni trompeur, ni menteur, ni même incapable. Et en plus, il a une bonne mémoire. Parfois, nous prions, et ça je l'ai déjà vu, on prie, on demande des choses au Seigneur, puis après on n'y pense plus, et après on oublie. Et quelques mois après, tout à coup, on voit la réponse de Dieu, on se dit, et c'est quelque chose de surnaturel, c'est pas le hasard, on se dit, ah oui, c'est vrai, j'avais prié pour ça, et après j'ai oublié. Dieu n'a pas oublié tes prières. Dieu n'a pas oublié, il n'oublie pas. J'espère en ta promesse. Mes yeux languissent après ta promesse. Amen. C'est là qu'il faut espérer. C'est là qu'il faut attacher ton cœur. Non, pas ailleurs. Il dit, quand me consoleras-tu? Car je suis comme une outre dans la fumée. Il y a quelque chose dans l'épître aux Corinthiens, parce que, vous savez, ce psaume 119, il est vraiment magnifique et merveilleux. Mais je vous rappelle que c'est l'ancienne alliance. Et à cette époque, ils n'avaient pas l'esprit de consolation, le Saint-Esprit. Le consolateur, avant d'aller dans la deuxième épître aux Corinthiens, d'ailleurs, on va commencer par l'évangile de Jean au chapitre 14, verset 16. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Vous voyez, ça c'est l'évangile de Jean, c'est bien longtemps après les psaumes. Avant, le consolateur n'avait pas été donné. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 16, que je viens de vous lire, dit « Je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Non pas seul. Avec vous, c'était Jésus quand il était sur la terre. Jésus était avec ses disciples. Et maintenant, ce n'est plus comme ça. Jésus est remonté au ciel et gloire à Dieu pour cela. Heureusement que Jésus est remonté dans le ciel. Sinon, si on voulait bénéficier du Consolateur, on devrait tous être à côté de Jésus physiquement. Alors, comme il y a beaucoup de croyants, je vous assure que ça serait une bousculade. Une bousculade terrible. Une bousculade terrible. Et là, même si Jésus voulait pouvoir exercer son ministère, cette histoire de mettre une barque un peu éloignée sur le lac pour pas qu'il soit bousculé, je ne sais même pas si ça fonctionnerait encore. Amen. Amen. Les hommes seraient comme des fous enragés en train de se pousser, se bousculer, parfois peut-être même se frapper. Vous savez, quand il y a quelqu'un qui a quelque chose et qu'il tend cette chose et qu'il y a toute une foule à côté qu'il veut cette chose, les gens peuvent même s'entretuer pour cela. Ils peuvent se bousculer, s'écraser, s'insulter, enfin tout ce que vous voulez. Amen. Amen. Et en plus, ça entraînerait tellement de frustration chez ceux qui sont polis. Parce que tout le monde n'est pas comme ça, bien sûr. Il y a aussi des gens polis qui attendent leur tour. Mais comme tu sais, il y aura au moins 500 millions de personnes qui t'auront bousculé pour passer avant toi, ton tour, il n'arrivera pas. Amen. Heureusement que Jésus est remonté au ciel. Il a envoyé un consolateur de la même nature que lui. Et ce consolateur s'appelle le Saint-Esprit. Il n'est pas seulement à côté de nous, mais il est en plus en nous. Nous avons chacun notre propre consolateur. Celui qui me console, c'est le même que celui qui te console. Et pendant qu'il est en train de me consoler, il est aussi en train de te consoler. Ça, c'était le plan du Seigneur. Voyez sa sagesse, voyez la grandeur, la profondeur de ses pensées. Nous avons ce consolateur en nous qui exerce un ministère permanent. Lisons ensemble dans 2 Corinthiens et on va commencer à lire quelque chose dans le chapitre 4 et ensuite nous irons dans le chapitre 1. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. De quel ministère s'agit-il? Quand on lit le chapitre 3, on voit clairement qu'il s'agit du ministère du Saint-Esprit. On va lire seulement le verset 17 parce que cela nous le montre clairement, mais tout le chapitre 3 en parle aussi d'ailleurs clairement. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Et il continue dans le chapitre 4, c'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous ne pouvons pas perdre courage quand nous avons cette compréhension et cette conscience que le Saint-Esprit habite en nous et qu'il exerce un ministère de consolation, pas seulement de consolation, mais en plus il nous fortifie, non seulement il nous fortifie, mais il nous change afin que tout ce que nous faisons qui blesse notre vie, parce que nous faisons souvent, et je vais dire pratiquement tous les jours, des choses qui blessent notre vie. Nous disons ce qu'il ne faut pas dire. Faisons ce qu'il ne faut pas faire. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est en train de se vautrer dans le péché. Ce n'est pas de cela que je parle. Mais ce sont tous ces petits détails, ces petits renards qui, accumulés, nous font vraiment du mal. On n'a pas compris cela. On a réagi de telle manière. C'était une réaction basée sur une incompréhension qui n'était pas un péché, mais qui nous a amené un problème. Et ça, on le vit tout le temps. On le vit chaque jour. C'est les choses que nous pensons quand on ne comprend pas bien. Est-ce que vous savez que quand on ne comprend pas bien, on ne peut pas réussir? La réussite passe par la compréhension. Et celui qui nous donne de la compréhension, c'est le Saint-Esprit. Aussi vrai est-il qu'un enfant, aussi gentil soit-il, ne pourra pas réussir à l'école s'il ne comprend pas. Même s'il est fidèle, même s'il travaille, même s'il fait ses devoirs, s'il ne comprend pas, il ne comprend pas. Et s'il ne comprend pas, il ne réussit pas. Et souvent, le prier sans cesse, je vous en supplie, priez sans cesse pour avoir de la compréhension, celle qui vient du ciel. Amen. On va lire ensemble maintenant toujours 2 Corinthiens, mais cette fois on va lire au chapitre 1, qui nous parle de la consolation. Verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. » On lit verset 6, « Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. » Et quand on lit cela, on comprend pas grand-chose, n'est-ce pas? Parce qu'on ne voit même pas ce qu'il y a à comprendre. On a l'impression que c'est tout un langage et une façon de parler. Et je vous assure que ça, c'est vrai dans le monde, mais c'est faux dans la parole de Dieu. Il y a vraiment un sens puissant qui ne ressort pas vraiment dans la traduction en français. Et vous savez, quand on lit une traduction ou quand on écoute une interprétation, même si l'interprétation est un excellent interprète, parfois, ça lui est difficile de faire ressortir la pensée au travers d'une interprétation, au travers d'une traduction. Et vous qui vivez ici au Burundi, vous savez de quoi je parle. Quand on dit quelque chose en français, on le dit d'une certaine manière. Quand on le dit en Kirundi, on le dit différemment. Et en le disant différemment, à cause de la façon de comprendre, de la façon de réfléchir, de penser, eh bien, ça ne sera pas 100% l'équivalent de ce qu'on a dit en français. C'est seulement les personnes qui maîtrisent les deux langues qui peuvent voir ces choses et comprendre ces choses. Et non seulement maîtriser la langue, mais aussi avoir une culture selon cette langue. Soit avoir étudié dans cette langue, ou soit avoir séjourné dans le pays où on parle cette langue. Vous savez, les choses sont complexes quand il s'agit de langage, et elles sont profondes, et parfois elles sont difficiles. Donc, qu'est-ce que veut dire ce texte? Parce que je vous rappelle que ce texte a été écrit en grec, il a été écrit en grec, et en fait, cela nous dit littéralement que la consolation qui vient de Dieu, elle produit quelque chose en nous. Elle produit une résistance triomphante par rapport aux pressions. En fait, ça n'a rien à voir avec le fait de supporter. Parce qu'il est dit, si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et quand on lit ce texte littéralement, vous savez, parfois, les gens qui ont un esprit religieux, ils vont dire, tu es sur cette terre, tu dois supporter, tu dois souffrir. La parole de Dieu te dit, souffre, souffre et souffre et souffre. Et supporte, supporte, supporte. Et en fait, ça semble être écrit comme ça, mais ce n'est pas écrit comme ça, déjà pour commencer. Et si ça avait été effectivement écrit comme ça, ça serait contraire à la pensée de Dieu, à la pensée de la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que, alors Jésus aurait dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug parce qu'il est doux et mon fardeau parce qu'il est léger. » Voyez, ça serait contradictoire. Si on doit supporter, porter, supporter, porter, supporter, c'est contradictoire avec le fait que Jésus veut nous donner un joug qui est doux et un fardeau qui est léger. Ça serait aussi contradictoire par rapport à 1 Pierre chapitre 5 verset 7 qui dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même, le Seigneur, prend soin de vous ». Ça serait contradictoire avec le psaume 23 dans lequel il nous est montré clairement que le Seigneur est notre berger qui prend soin de nous, qui nous fait reposer parce qu'il est notre berger, nous ne manquons de rien. Il nous donne du repos, il prend soin de nous, il nous défend face à l'adversité, il nous remplit, notre coupe doit déborder de joie. Voyez, un verset peut sembler vouloir dire quelque chose alors qu'il ne veut pas vraiment dire cette chose parce que c'est une traduction. Et on doit être prudent quand même parce que on doit toujours regarder à la lumière de ce que dit l'ensemble de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit que Dieu veut que tu sois consolé. Dieu veut que tu sois fortifié. Non pas pour supporter et te faire écraser la tête, mais pour que, au travers de la consolation que tu expérimentes de la part de Dieu, cette consolation produise en toi une résistance triomphante face à toutes les pressions. Face à n'importe quelle pression. Vous savez, il y a des personnes qui sont plus résistantes que d'autres. Si tu fais partie de ceux qui ne sont pas résistants, qui sont extrêmement sensibles, extrêmement faibles, extrêmement déstabilisés, viens aux pieds du Seigneur et expérimente cette consolation qui va te changer, qui va te fortifier, qui va te donner une assurance, même face aux plus grands défis, face aux plus grands dangers. Nous avons un consolateur, et ce n'est pas une plaisanterie. Ce n'est pas un consolateur de deuxième gamme, de bas de gamme. Vous savez, ce genre de personnes qui viennent vous voir et qui pleurent avec vous, mais qui ne peuvent rien faire pour vous. Ils disent seulement « Oh, vraiment, je suis désolée ». Et sa désolation, ça t'apporte quoi ? Rien du tout. Ça ne veut pas dire qu'on veut mettre à la poubelle les gens qui sont désolés pour nous. Mais il faut être réaliste. Leur désolation, ça ne change pas nos vies. Vous savez, quand quelqu'un est vraiment trop désolé pour nous, ça nous enfonce encore plus. Regardez parfois dans les deuils. Voyez, il y a quelqu'un qui est affecté par la perte d'un être cher. Et tu vois tout le monde qui est désolé, qui est en train de pleurer. Qu'est-ce que ça produit ? Ça produit que celui qui a perdu un être cher, il est encore plus désolé. Mais quand il se retrouve entouré de personnes qui, bien sûr, le comprennent, mais qui l'aident à penser à autre chose, à se focaliser sur autre chose, qui l'aident à regarder à l'avenir, et quand il s'agit de chrétiens, bien sûr, et qui l'aident à se dégager de cette souffrance pour que cette personne comprenne que l'être cher est au ciel. Là, ça aide vraiment. La consolation qui vient de Dieu n'a rien à voir avec cette consolation un peu désolée et pitoyable qui n'apporte rien de toute façon à personne. Amen. Mais qui a plutôt tendance à enfoncer davantage dans la détresse, dans le désespoir et dans la dépression. Et nous avons besoin d'une consolation qui nous fait sortir de la dépression. Nous avons besoin d'une consolation qui nous remplit de foi, une consolation qui nous aide à regarder devant, une consolation qui nous aide à voir l'avenir et les choses que Dieu a préparées pour nous, pour chacun d'entre nous. Amen. Et cette consolation, eh bien, elle est produite par le Saint-Esprit, par le Consolateur qui habite en nous, et nous pouvons en bénéficier continuellement. Je reviens dans le psaume 119, la fin du verset 82, il dit « Je dis, quand me consoleras-tu ? » Et la réponse, c'est tout de suite. Pour nous, personnes du Nouveau Testament, pour nous, c'est tout de suite. C'est maintenant. Ouvre ton cœur, laisse tomber toutes ces choses qui t'enfoncent et tourne-toi vers le Consolateur qui prend soin de toi et qui t'aime. Amen. Amen. Il y a aussi une autre chose, je vais prendre quelques minutes pour en parler, qui ressort dans ces versets. Je vous rappelle que nous sommes en train de méditer sur le psaume 119, versets 81 à 88. Il ressort une chose. Il nous parle du fait, bien sûr, qu'il aime Dieu, qu'il cherche sa consolation, qu'il espère, qu'il croit dans ses promesses. Et il parle aussi d'autre chose. Il parle de ses persécuteurs. Il parle des orgueilleux qui creusent des fosses devant lui. Pourquoi ? Pour qu'il y tombe. Il parle de ceux qui lui veulent du mal, de ceux qui le persécutent sans cause. Et il dit même au verset 87, « Ils ont failli me terrasser et m'auraient exterminé. » Et si c'est écrit dans l'Ancien Testament, on peut le lire à maintes reprises, même dans le Nouveau Testament, dans la vie de Jésus. Combien de fois Jésus s'est-il trouvé face à des personnes mal intentionnées, non seulement mal intentionnées, mais remplies de haine, qui voulaient le détruire, qui voulaient le tuer. Des gens qui viennent lui poser des questions. Vous savez, comme cette histoire des Hérodiens qui disent « Est-il permis ou non de payer le tribut à César ?» C'est pas parce qu'il voulait savoir s'il fallait payer le tribut à César, c'est qu'il voulait simplement utiliser la réponse que Jésus allait donner pour trouver un moyen de l'accuser et de le faire mettre à mort. Et si on le voit dans l'Ancien Testament, on le voit dans la vie de Jésus, on le voit après dans les Actes des apôtres, combien de fois les apôtres se sont retrouvés en danger, Pierre, Jean enfermés en prison, l'apôtre Paul, quand il décrit ce par quoi il est passé, il a été frappé plusieurs fois, il a été lapidé, il a été en péril, il a été jeté en naufrage. Tout ça à cause de quoi? À cause de la puissance de l'ennemi qui manipule des personnes, qui d'ailleurs manipulent, mais elles se laissent vraiment bien manipuler. Elles sont d'accord avec ça. Est-ce que vous savez que le diable ne peut pas outrepasser notre volonté? Amen. Le diable ne peut pas outrepasser la volonté de n'importe quel homme, quel qu'il soit. Si le diable pouvait outrepasser la volonté d'un homme, eh bien, cet homme qui était le possédé de Gadara, vous connaissez cette histoire, cet homme qui vivait dans les sépulcres, qui se heurtait, qui criait, qui ne dormait même plus, qui portait plus de vêtements. Si le diable pouvait outrepasser la volonté d'un seul homme, ça aurait été quand même de celui-là. Pourtant, cet homme a pu choisir de venir jusqu'à Jésus. Et s'il est venu à Jésus, ce n'était pas pour insulter Jésus. Il était attaqué, parce qu'il était attaqué par ses démons qui vivaient en lui, mais il a eu la possibilité, il a pu mettre sa volonté en action pour pouvoir venir à Jésus. Et la raison pour laquelle il est venu à Jésus, c'est parce qu'il voulait être délivré. Le diable n'outrepasse la volonté de personne. Jamais, jamais. On sait que le diable peut manipuler des hommes au travers de choses vraiment graves, parfois la sorcellerie, parfois des choses terribles. On voit des hommes tels que par exemple Hitler qui a commis un génocide terrible, qui a tué des millions de personnes. Mais on sait qu'Hitler était possédé par des mauvais esprits, c'est clair. Mais ces mauvais esprits n'ont jamais outrepassé sa volonté. Pourquoi? Parce qu'ils ne le peuvent pas. Ils ne le peuvent pas. Amen. Donc on voit cette réalité des personnes qui se laissent manipuler par le diable, qui font du mal, qui vivent vraiment d'une mauvaise façon. Et parfois, on le voit même au travers des chrétiens. Non pas parce que les chrétiens sont possédés, parce que c'est impossible qu'un chrétien soit possédé dans son esprit s'il est né de nouveau. Quand tu es né de nouveau, il y a le Saint-Esprit qui habite en toi. Donc le Saint-Esprit ne peut pas en aucun cas cohabiter avec des démons. Même si les démons voulaient venir, ils ne peuvent pas, il y a déjà le Saint-Esprit. C'est impossible. Et pourtant, parfois, on voit même des chrétiens, parfois même jusque des serviteurs de Dieu qui se laissent influencer et qui persécutent d'autres serviteurs de Dieu, des chrétiens qui persécutent d'autres chrétiens et des gens du monde qui persécutent des chrétiens. Parfois, ce sont d'autres mouvements religieux qui persécutent les chrétiens. Donc ça, c'est une réalité. Mais face à n'importe quelle persécution, nous avons d'abord un avocat, nous avons un protecteur et nous avons aussi les anges qui campent autour de nous afin de nous arracher au danger. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne journée.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.